J'invite Jean qui a préparé quelque chose pour nous. Avant, je voulais poser la question, deux questions à Jean. Jean Villard, depuis combien de temps tu suis déjà Jésus?
Je pourrais dire ce que Paul dit à Timothée, ta foi habitait déjà ta grand-maman. Oui, ma grand-maman était pleine de foi et mes parents aussi croyaient. Alors, dès ma naissance, j'ai été béni. Mais il a fallu que je prenne personnellement position. Je l'ai fait à 13 ans lors d'un camp de veine et à 16 ans, j'ai reçu le baptême.
Excellent. Voilà. Donc, les grands-mamans servent à quelque chose et les mamans.
Ah ben oui, alors, les grands-mamans, c'est tellement précieux.
Est-ce que ton métier de prof comme philosophe ne t'a jamais déstabilisé dans ta foi?
Il me semble que non, ça ne m'a pas vraiment déstabilisé, mais il y a eu quand même certaines difficultés. Au début de ma carrière, pendant mes études déjà, j'avais tendance à vraiment séparer le domaine de la foi et le domaine de la raison, la philosophie. Tandis que petit à petit, j'ai été amené à les voir ensemble. Et ceci, entre autres, parce que je suis très critique, j'aime bien voir le défaut de la cuirasse. Alors, quand des penseurs d'autrefois ou d'aujourd'hui prétendent parler au nom de la raison, moi je dis mon œil. Hein. Si on regarde un peu plus près, ce qu'ils disent est loin d'être toujours rationnel et surtout pas logique. N'est-ce pas, Mathias? La logique, c'est rarement appliqué chez les philosophes. En tout cas, pas intégralement et tout, pas pour les vérités essentielles de base. Voilà. Alors, j'étais toujours plus heureux de pouvoir vivre une philosophie chrétienne et d'en dire quelque chose à mes élèves ici et là. Bien sûr, on n'a pas le droit de faire de la propagande religieuse en classe, mais on peut quand même laisser percer quelque chose.
Merci beaucoup. Je vais prier pour toi. Père, je veux te remercier parce que tu nous as donné Jean. Merci aussi pour ce qui nous a préparé. Et je veux invoquer ta puissance, ton esprit, de nous révéler ce que tu veux nous dire ce matin. Je veux te bénir, Jean, dans le nom de Jésus. Je veux bénir ta femme aussi dans le nom de Jésus. Je veux remettre tes enfants, tes petits-enfants devant le trône de Dieu.
Amen. Amen. Merci. Quelle drôle d'idée de me demander de vous parler de l'apôtre Pierre, moi qui suis si différent de lui. Mais enfin, je vais essayer quand même. Si l'on demandait à l'apôtre Pierre de donner son témoignage, que dirait-il? Est-ce qu'il raconterait sa vie? Eh bien, pendant quelques minutes, imaginons qu'il le ferait. Que dirait-il? Oh, il aurait beaucoup à raconter. Entre autres, voici ce qu'il pourrait dire. Donc, je précise bien ce que je vais dire, c'est moi qui l'imagine, mais Pierre ne l'a pas dit. Hein. Alors, imaginez qu'il dise ceci. « Je m'appelle Siméon, Simon pour les Grecs. Je suis né au bord du lac de Galilée. Je suis pêcheur et fils de pêcheur. Un jour, mon frère André, qui était allé écouter Jean-Baptiste, m'a conduit vers Jésus. Jésus m'a appelé et il m'a donné un nouveau nom, Céphas, c'est-à-dire Pierre, en grec ou pour nous français, Céphas, Pierre. Eh bien, c'est sur moi, un de ses premiers disciples, que Jésus a promis de construire son église en me donnant les clés du royaume. Avec les autres apôtres, j'ai suivi Jésus dans son parcours à travers tout le pays d'Israël, en annonçant la bonne nouvelle et en opérant des guérisons et des libérations. Plus tard, quand une troupe armée est venue l'arrêter en pleine nuit, j'étais prêt à me battre pour lui jusqu'à la mort. J'ai dégainé mon épée, mais il m'a interdit d'agir. Je n'y comprenais rien. J'ai encore moins compris quand je l'ai vu lamentablement traîné devant les autorités. Et alors, je l'ai renié. Le regard qu'il a jeté sur moi m'a fait pleurer amèrement. Il m'a aussi donné la force de changer en profondeur. Je suis le premier homme, je ne parle pas des femmes, je suis le premier homme à qui Jésus est apparu après sa résurrection. Il m'a confié la garde de tout son troupeau. Par son esprit, je suis devenu le porte-parole de l'Église naissante. J'ai été arrêté par les chefs religieux, mis en prison et battu. À deux reprises, j'ai été miraculeusement libéré. J'ai opéré des miracles, par exemple, la guérison d'un paralytique et même la résurrection d'une femme. Voilà ce que Pierre aurait pu dire. Entendant cela, nous nous disons, mais quel personnage admirable, quel personnage extraordinaire, on pourrait le statuer, on pourrait lui faire une statue. Oui, vous voyez, hein? Quelle majesté, quelle autorité souveraine, hein? De cette statue qui date du début du XVIIIe siècle à Saint-Jean-de-Latran. Eh bien, je suis sûr d'une chose, si Pierre voyait cette statue, il la réduirait en miettes. Parce que quand il faisait quelque chose, il n'y allait pas de main morte. Il la réduirait en miettes. Pierre, en effet, ne veut pas être honoré, statufié, admiré. Il n'étale pas non plus ses prouesses spirituelles. Dans les textes que nous avons de lui, il ne dit rien de sa propre vie. Alors on peut éteindre. On ne va pas réduire ça en miettes, mais on éteint pour passer à autre chose. Alors, de quoi Pierre parle-t-il quand il donne son témoignage? Quand il dit être témoin, de qui est-il témoin? Eh bien, écoutons-le lui-même dans sa première épître, chapitre 5, verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances du Christ, témoin des souffrances du Christ, et participant à la gloire qui doit être révélée. Oui, Pierre se dit témoin des souffrances du Christ. À ses destinataires qui passaient par des épreuves épouvantables, il ne dit pas « Ah ben moi aussi, j'ai été emprisonné, j'ai été battu, etc. » Non. Il dit « Dans vos souffrances et dans vos détresses, tournez vos regards vers la passion de Jésus. Jésus a réellement été méprisé, bafoué, cloué sur une croix. C'est la vérité, j'en suis témoin. » Remarquons aussi que Pierre n'insiste pas sur son titre d'apôtre. Il ne dit pas « moi l'apôtre », il dit « moi, ancien comme eux » et même plus littéralement « ancien avec eux ». Je fais partie de votre équipe d'anciens. Hein. C'est extraordinaire, surtout quand on pense à l'immense honneur qu'on a fait par la suite à Pierre, le premier des apôtres. Il se met au même rang que les simples anciens des églises d'Asie mineure à qui il écrit. Entre parenthèses, ancien, transcrit du grec, c'est presbytre, mot qui est devenu prêtre en français. Voilà à quel rang il se met. Eh bien, justement, un témoin digne de ce nom ne se rend pas témoignage à lui-même. Ce ne serait pas recevable. D'ailleurs, c'est les docteurs de la loi qui l'ont fait remarquer à Jésus. Hein. Si tu te rends témoignage à toi-même, ça ne vaut rien du tout. Il parle d'autres personnes, il parle de réalités qu'il a vues et entendues. Et c'est ce que fait Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1, les versets 16 à 18, quand il évoque la transfiguration de Jésus à laquelle il avait assisté avec deux autres apôtres. Nous lisons. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Oui, Pierre le souligne, nous avons vu de nos propres yeux, nous avons entendu. C'est bien en tant que témoin oculaire qu'il parle. Eh bien, justement, la foi des chrétiens ne repose pas sur des idées, ni sur des mythes plaisants, ni sur des sentiments. Elle repose sur des faits qui sont attestés par des témoins dignes de foi. Or, quel est, aux yeux de Pierre, le fait le plus important? C'est le fait que Jésus est ressuscité. J'aimerais qu'on éteigne simplement la projection. Voilà. Non, pas encore. Vous éteignez, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Aux yeux de Pierre, quel est le fait le plus important dont il témoigne? Eh bien, c'est le fait que Jésus est ressuscité. Il en parle à la foule lors de la Pentecôte. Il dit, « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Il en parle aux païens réunis chez Corneille. « Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour et lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Je viens de citer Acte 10, les versets 40 à 41. Il en parle aussi au tribunal à deux reprises. Et c'est là que le terme de témoignage a son sens le plus strict, le plus étroit. Quand on est interrogé par des juges, il s'agit de déclarer ce qu'on a constaté, ce qui est un fait, parce qu'on l'a vu et entendu. C'est là un témoignage au sens étroit du terme. Eh bien, ça s'est passé lors de deux événements au moins qui nous sont rapportés dans les Actes. Premier événement, Pierre, accompagné de Jean, avait guéri au nom de Jésus un impotent à la porte du temple, et avait ensuite proclamé la vie et la puissance de Jésus à la foule accourue. Les chefs juifs, irrités par ce message, ont arrêté les deux apôtres et les ont fait comparaître devant leur tribunal appelé le Sanhédrin. Et voici le témoignage de Pierre, Acte 4, versets 9 à 11. Chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Deuxième événement, à nouveau, les apôtres ont été convoqués devant le Sanhédrin après avoir été emprisonnés et libérés par un ange. Mais là, devant le Sanhédrin, même témoignage. Acte 5, les versets 30 à 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses. Oui, c'est là la vérité essentielle. C'est bien parce que Jésus est vivant que nous pouvons être sauvés du mal et de la mort. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. C'est parce qu'il est vivant que nos péchés sont pardonnés. Parce qu'il est vivant, l'Esprit de Dieu est répandu sur l'Église. Et c'est parce qu'il est vivant que nous sommes appelés à changer radicalement de vie et que nous sommes donnés les moyens de le faire. Il y a, sur ce point, parfait accord entre Pierre et Paul. Vous connaissez ce passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 17 à 18. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Mais en réalité, Jésus-Christ est ressuscité, et les dons de sa grâce se répandent sur nous. Et de plus, en Christ ressuscité commence un nouveau monde. Nous avons le ferme espoir que toutes les détresses, les asservissements, les atrocités de ce monde seront effacées. Les victimes innocentes et les justes, dans une vie nouvelle, recevront une consolation si profonde qu'ils en oublieront leurs souffrances passées. Oui, il n'y a pas de réalité plus importante que celle dont témoigne Pierre, Jésus est ressuscité. Non, pas encore, on peut éteindre, s'il vous plaît. Merci. Pierre est témoin du Christ ressuscité. Mais nous, est-ce que nous pouvons être témoins du Christ ressuscité? Alors, au sens le plus strict, il faut répondre non. Pierre soulignait que le ressuscité ne s'est pas montré à tous, mais seulement à des témoins choisis d'avance. Et dans sa première épître, il écrit « Vous, vous ne l'avez pas vu, vous ne le voyez pas encore. » Personne, à part les apôtres et quelques-uns de leurs contemporains, personne à part les apôtres n'est témoin oculaire de la résurrection du Christ. Et pourtant, Pierre dit dans sa première épître, 1:8, « Vous, vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Vous l'aimez. » C'est bouleversant. À lui, le Christ ressuscité avait demandé 3 fois, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» Mais ici, Pierre ne pose pas la question, il ne dit pas aux autres « Est-ce que vous l'aimez ?» Il l'affirme comme une certitude. « Vous, vous l'aimez. » Alors vous, vous l'aimez, donc il s'est passé quelque chose. Il vous a parlé, il s'est fait connaître à vous par son esprit. Donc, vous aussi, nous tous aussi, nous sommes appelés à être témoins du Christ, mais en un autre sens du mot « témoin ». Nous pouvons dire ce que le Christ a fait dans nos vies, et dans l'existence de personnes que nous connaissons bien. Voici quelques exemples. Deux couples qui étaient en conflit se sont réconciliés suite à la prière et à la réception de la parole vivante. C'est le Christ qui a accompli cette réconciliation. Il y avait un malade chronique pour lequel plusieurs intercédaient. À 3 reprises, le Seigneur a envoyé auprès de ce malade un chrétien, sans pression ni même information humaine, mais par une pensée qui a été envoyée à ce chrétien par l'Esprit du Christ. Ou encore, dans notre pays, un enfant souffrant d'angoisse grave a été libéré, guéri immédiatement suite à la prière d'un ami résident en Afrique. Et on pourrait multiplier de tels exemples. Cependant, ici, il y a un risque pour vous comme pour moi. En témoignant de ce que Jésus a fait dans ma vie, je peux, sans même le vouloir, attirer l'attention sur moi. je peux laisser croire que c'est la ferveur de ma piété ou la longueur de ma prière qui sont les causes du fait merveilleux que je rapporte. D'ailleurs, dans la Bible, on remarque qu'en général, celui qui parle d'un miracle, ce n'est pas le croyant qui l'a opéré. Ce serait en effet suspect aux yeux de certains interlocuteurs. Ce sont les autres personnes, croyantes ou incroyantes, qui attestent le miracle. On entend dire parfois, il faut témoigner par nos actions plutôt que par nos paroles. Oui, mais si un chrétien accomplit une action remarquable dans l'amour de son prochain et qu'aucune parole n'est dite par personne, les gens qui voient cette action vont se mettre à admirer son auteur, saluer sa spiritualité ou sa charité. Donc il faut des paroles, justement pour dévier l'attention, pour orienter les gens vers le Dieu de Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, demandons à notre Seigneur de nous donner les moyens d'attirer l'attention sur lui et non sur nous-mêmes, et d'agir par son esprit pour que les interlocuteurs discernent à travers nos propos l'intervention du Christ vivant. C'était le souci de Pierre quand il a guéri l'impotent à la porte du temple. Acte 3, les versets 12 à 16. Pierre dit au peuple, « Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. Que de telles paroles puissent être répétées, renouvelées aujourd'hui. Je vous invite à vous recueillir et pour vous aider peut-être, on peut projeter le résumé de ce que je vous ai présenté ici. Pierre, donnant son témoignage, ne raconte pas sa vie. Un témoin parle de réalités qu'il a vues et entendues. Le fait le plus important dont témoigne Pierre, c'est que Jésus est ressuscité. Notre témoignage, c'est d'exprimer ce que Jésus a fait dans nos vies et autour de nous. Mettons l'accent sur lui, non pas sur nous, et prions pour cela.